Chapitre 66. L'autocar du Conseil général dépose le commissaire Laurentin sur la place centrale de Lyon-la-Forêt. Pendant tout le trajet, le pare-brise du véhicule a offert au commissaire une vue panoramique de l'envoûtante étrée qui entoure la commune, puis de l'enfilade de maisons normandes à colombages qui parfume le lieu d'une nostalgie de siècle dernier, comme si le village n'avait été conservé en l'état que pour y tourner des adaptations des nouvelles de Maupassant ou des romans de Flaubert. Le regard du commissaire Laurentin s'arrête un instant sur la fontaine de la place centrale, juste à côté des halles imposantes. La jolie fontaine de pierre ne fait pas son âge, et pour cause. Elle a été entièrement construite il y a une vingtaine d'années pour les besoins du film de Chabrol sur Emma Bovary. Du faux. Du toc. Le commissaire ne peut cependant éviter de faire le rapprochement entre le destin tragique d'Emma Bovary, ce sentiment d'ennui ordinaire, cette impression d'une autre vie possible qui vous serait refusée, et toutes les informations qu'il a recueillies depuis quelques jours sur Stéphanie Dupin. Tout en quittant la place centrale du village, le commissaire Laurentin se raisonne. Un tel parallèle est ridicule. Il a passé l'âge des amalgames romantiques. Le commissaire Laurentin progresse d'un bon pas. La maison de retraite Les Jardins se situe un peu au-dessus de Lyon. On y accède par une pente raide en bordure de forêt. Le linoléum bleu pastel du hall d'entrée brille comme si on le brossait toutes les heures. La plupart des pensionnaires occupent leur fin d'après-midi, et sans doute le reste du temps, dans une grande salle sur sa gauche. Un immense écran plasma semble allumé en permanence devant une trentaine de résidents immobiles, endormis, perdus dans leurs pensées. Les plus actifs mâchent mollement les biscuits d'un goûter servi il y a une heure, en attendant le repas du soir. Éloge de la lenteur. Une infirmière un peu forte traverse la pièce avec la souplesse d'un gérant de magasin de porcelaine et s'avance vers lui. Monsieur ?
Commissaire Laurentin, j'ai appelé ce matin. Je souhaiterais rencontrer Louise Rosalba.
L'infirmière sourit. Une petite broche dorée indique son prénom. Sophie.
Oui, je me souviens. Louise Rosalba est prévenue. Elle vous attend.
Louise a beaucoup de mal à s'exprimer depuis quelques années, mais ne vous y fiez pas, elle a encore toute sa tête. Elle comprend parfaitement ce qu'on lui demande. Chambre 117. Ne soyez pas trop brusque, commissaire. Louise a 102 ans et cela fait bien longtemps qu'elle n'a pas reçu de visite.
Le commissaire pousse la porte de la chambre 117. Louise Rosalba est orientée de trois quarts et observe le parking, juste au-dessous de sa fenêtre. Fixement. Une Audi 80 se gare. Un couple sort de la voiture. La femme porte un bouquet de fleurs. Deux jeunes enfants chahutent en refermant la portière. Laurentin a l'impression que le flux des visites pour les autres pensionnaires rythme le quotidien de la centenaire.
Louise Rosalba ?
La vieille femme tourne son visage ridé. Laurentin sourit.
Je suis le commissaire Laurentin. Sophie, l'infirmière, a dû vous parler de ma visite ce matin. Je suis désolée, je suis venue faire appel à vos souvenirs, de très vieux souvenirs, des souvenirs sans doute pas très agréables. Je suis venue vous parler de la mort de votre fils unique, Albert. C'était en 1937.
Les mains de dentelle tremblent entre les plis de la couverture posée sur ses genoux. Les yeux clairs se mouillent. Louise ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Au mur, aucun crucifix n'est accroché. Aucune photographie d'enfants, de petits-enfants, d'arrière-petits-enfants en robe de baptême ou en aube de communion. Aucune procession de mariage. Les murs nus sont simplement décorés de la jolie reproduction d'une toile de Monet. La demoiselle à l'ombrelle. Une élégante mère de famille y promène son enfant dans un champ, où explose le rouge d'une pluie de coquelicots, quelque part dans les environs d'Argenteuil.
Continue le commissaire Laurentin. J'ai des questions précises à vous poser. Ne bougez pas, Je vais aider votre mémoire. »
Le commissaire se penche et sort de son sac une photographie de classe en noir et blanc. École de Giverny, 1936-1937. Il pose le cliché sur les genoux de Louise. Les yeux de la centenaire semblent fascinés par la reproduction.
« C'était Albert ?»
demande le commissaire en désignant le garçon assis au deuxième rang.
« C'était bien lui ?»
Louise hoche la tête en signe de confirmation. Quelques larmes coulent sur la photographie, comme s'il s'était mis à pleuvoir sur la cour d'école, mais que les enfants dociles n'osaient pas bouger un cil, patients devant l'objectif d'un photographe méticuleux.
« Vous n'avez jamais cru qu'il s'agissait d'un accident. C'est bien cela ?»«
Non, » articule Louise. Elle déglutit longuement. « Il n'était pas seul, près de la rivière. »
Le commissaire tente de contrôler son agitation intérieure. Il repense au conseil de l'infirmière. Ne pas brusquer Louise.
Savez-vous qui était avec votre fils ?
Louise acquiesce, doucement. La voix du commissaire devient plus hésitante. Une tension extrême semble remplir l'air de la minuscule chambre, comme si ouvrir le coffre de ses vieux souvenirs libérait un gaz inflammable à même de faire exploser la pièce à la première maladresse.
C'est cette personne ? Celle qui était avec Albert près du ruisseau, qui a tué votre fils.
Louise se concentre sur les mots prononcés par le commissaire et acquiesce encore. Un long mouvement de cou, sans équivoque.
Pourquoi n'avoir rien dit ?
Pourquoi, à l'époque, ne pas l'avoir accusé ? Il tombe maintenant une averse sur la cour d'école de Giverny. Le papier se gondole. Les enfants de la classe, toujours sages comme des images, ne bronchent pas.
Personne ne me croyait. Même mon mari.
La centenaire semble avoir fourni un effort démesuré pour prononcer ces quelques mots. La peau flasque qui pend sous son cou tremble comme le fanon d'un volatile de basse-cour. Le commissaire Laurentin comprend qu'il doit la ménager, poser les questions et suggérer les réponses, pour que Louise n'ait qu'à confirmer ou infirmer les hypothèses qu'il lui soumet d'un geste ou d'une syllabe.
« Par la suite, vous avez déménagé. Il n'était pas possible de rester. Puis votre mari est décédé. Vous êtes restée seule ?»
Louise hoche lentement le cou en signe d'accord. Le commissaire se penche vers la centenaire, sort un mouchoir de sa poche et essuie avec délicatesse la photographie de classe.
« Et ensuite ?»
continue Laurentin d'une voix qui peine à masquer son émotion.
« Cette personne qui était avec votre fils au bord de la rivière. Ensuite, cette personne a commis un nouveau crime. » C'est cela ?
Plusieurs, peut-être.
Cette personne a recommencé. Cette personne recommencera.
Louise Rosalba respire mieux tout d'un coup, comme si le commissaire venait de lui enlever un poids qui lui pesait sur la poitrine depuis une éternité. Elle acquiesce de la tête.
Mon Dieu !
Des frissons parcourent les bras du commissaire Laurentin. Pour lui non plus. Ces brusques accélérations cardiaques ne sont pas recommandées. Mais dans l'immédiat, il se fiche des conseils de son cardiologue. Seul compte ces stupéfiantes révélations, enfouies dans la mémoire d'une femme depuis près de 75 ans. Il avance la photographie plus près des doigts de Louise.
Cette personne dont nous parlons, elle aussi est assise sur les bancs de l'école, n'est-ce pas ?
Pouvez-vous me la montrer ? Les doigts de Louise tremblent plus encore. Laurentin place avec douceur sa paume sur le poignet de la centenaire, tout en se gardant bien d'accentuer la pression, de le diriger dans un sens ou dans un autre. Les doigts fripés se déplacent au-dessus de la photo de classe. Puis, lentement, l'index de Louise se pose sur un visage. Le commissaire sent son cœur s'emballer.
Mon Dieu! Mon Dieu!
Une immense bouffée de chaleur l'enveloppe. Il serre plus fort encore la main de Louise. Son cœur s'échappe. Il faut qu'il se calme.
Merci. Merci.
Il souffle doucement. L'excitation retombe un peu. Le commissaire Laurentin se laisse envahir par ce sentiment étrange. La contradiction entre la dimension irrationnelle de cette révélation, de ce témoignage, de cette accusation, et sa logique pourtant implacable. Désormais, il sait qui a assassiné le petit Albert Rosalba. En conséquence, il sait également qui a assassiné Jérôme Morval. Qui et pourquoi ? Son cœur reprend petit à petit un battement normal, mais il ne parvient pas à repousser cette dérisoire satisfaction. Cet inutile orgueil d'avoir enfin la preuve qu'il ne s'est pas trompé, qu'il ne s'est pas laissé abuser. D'avoir raison avant les autres. Son regard se perd par la fenêtre au-delà du parking, vers la haie très sombre dont on devine l'orée.
Que faire maintenant ?
Retourner à Giverny ? Retourner à Giverny et retrouver Stéphanie Dupin, avant qu'il ne soit trop tard. À cette seule dernière pensée, son cœur bat à nouveau à se rompre. Son cardiologue serait furieux.